Bonjour à tous et bienvenue sur cette première conférence du dimanche au Festival des mondes de l'imaginaire de Montrouge. Nous sommes ravis d'accueillir Charlotte Bousquet et Fabien Fernandez, avec qui nous allons parler évidemment des liens entre jeu et littérature et surtout de la relation qu'est-ce que c'est que d'être un duo en jeu et en littérature, ce que vous êtes un peu dans la vie, il faut bien le reconnaître. On va essayer de ne pas faire dans l'ambiance thérapie de couple, mais on va pouvoir en parler de façon un petit peu à rentrer à l'intérieur de la technique de création. Alors, pour chacun de vous, comment s'est passée votre rencontre ? Alors, soit avec la littérature, mais ça, on apprend tous à lire, non pas votre rencontre à tous les deux. J'ai bien fait de placer cette petite virgule à ce moment-là. Comment s'est passée votre rencontre avec le jeu, je voulais dire, plutôt ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait autant partie de votre vie que la littérature ?
Je suis tombée dedans très petit. J'avais 9 ans. Et j'ai commencé... Alors, je vais parler à toute la salle avec beaucoup de références. J'ai commencé par L'Œil Noir, parce qu'à l'époque, c'était bien. C'était distribué par France Loisirs. Il y avait des gros coffrets. Et j'ai commencé par ça. Et ensuite, j'ai continué sur, évidemment, les classiques Donjons, en coffret de différentes couleurs. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai enchaîné sur tout ce qui est arrivé en France, à peu près. Les classiques de chez Chaosium, Starbinder, ce genre de choses.
Et tu n'as jamais arrêté de jouer ?
Non, même pas, je crois pas.
Charlotte ?
Mais ça va, sinon.
Moi, j'ai commencé par les livres dont vous êtes le héros.
Donc c'est bien une approche littéraire du jeu.
Et c'est une approche littéraire du jeu, c'est assez rigolo. On jette des dés, on regarde après la meilleure solution, parce que je triche quand même énormément.
Que celui qui n'a jamais triché, lui au livre dont vous êtes le héros, lui jette le premier dé.
Voilà, et puis après j'ai entendu parler des jeux de rôle plus tard quand j'étais en terminale, et j'ai réussi à m'incruster dans un groupe de jeux. Donc j'ai commencé par du Medfan qui était un truc qui s'appelait Féerie, qui était un jeu de rôle, je crois, de création française. Et voilà, c'était sympa. Et puis après, de groupe de jeux en groupe de jeux, j'ai plutôt découvert genre vampire, encore vampire. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu.
Ok. Et est-ce que pour vous, cette rencontre, elle est liée à la littérature ? On vient de le voir un peu pour Charlotte, mais Fabien, est-ce que...
Je peux poser une question ?
Oui, oui.
Tu jouais quel genre de personnage à vampire ?
Ah, j'ai mon premier personnage, c'est une assamite, égyptologue. Et elle était chouette. voilà, complètement psychorigide. Qu'est-ce que j'ai joué d'autre ? J'ai joué une Ravnos, j'ai joué une Bruja. Et je rêve de... Alors c'est un appel du pied. Je voudrais absolument jouer une Lassandra en...
Tu n'es pas obligée de répondre à toutes les questions.
Non, mais voilà. mais c'était un appel du pied.
Alors justement, parlons d'appel du pied. Est-ce que votre relation personnelle influence la façon dont vous appréhendez le fait de jouer ensemble ? Est-ce que d'abord, vous jouez toujours ensemble à l'heure actuelle ? Ou est-ce que vous faites des parties séparées ?
Ça
a l'air glauque, les parties séparées, mais non, en fait.
Ça nous arrive de jouer séparément. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais de temps à autre en convention de jeu, et Charlotte, non. Donc, déjà, c'est à ce moment-là qu'on ne joue pas ensemble. Mais sinon, on joue, sans trop mentir, en moyenne, quand on n'est pas sur le festival, à peu près une fois par semaine.
Ok. Et alors, comme vous êtes tous les deux créateurs, mais dans des domaines un peu différents, et on va voir si ça se rejoint ou pas, est-ce que, Charlotte, pour commencer, en création d'univers littéraire, est-ce que tu penses que la possibilité de jouer dans les mondes que tu crées, c'est quelque chose auquel tu penses quand tu crées un monde, ou ça vient pas du tout ? Est-ce que la finalité du support, ou la finalité de l'exercice de l'expression de ton œuvre est importante, ou tu crées ton univers et peu importe ce qui se passe avec ensuite ?
Alors je dirais que pour la première trilogie, je pense l'avoir créé, alors pas forcément avec l'intention d'y faire jouer, mais dans une perspective qui était beaucoup plus création d'univers de jeu de rôle. Je ne saurais pas dire comment exactement, mais il y avait quand même sept royaumes avec quelque part, voilà, des catégories bien définies et tout ça.
Georges Martin est un rôliste.
Bah, je pense, de toute façon.
Il l'avouera un jour.
Voilà. Après, je ne suis pas... Après, pour ce qui est, par exemple, l'archipel des Numinés, non. Je crois qu'il y a de toute façon des choses communes à la littérature et au jeu de rôle qui sont ces développements de peuples, de races, de genres de choses. Mais après... Après, je ne crois pas m'être trop posé de questions. Je serais très contente si des gens adaptaient mes univers, mais à condition que ce soit complètement détaché de toute timeline et qu'ils puissent être les héros, justement, de l'histoire et pas avoir la chance de rencontrer le grand méchant qui, de toute façon, déjà été tué dans la trilogie. Quoi. Voilà.
Et toi, est-ce que tu te considères en tant que créateur d'univers comme potentiellement un créateur de romans? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une vraie question qui se pose très régulièrement aux auteurs de jeux de rôle, mais est-ce que c'est la même chose que de créer un univers pour un jeu de rôle et d'écrire un roman?
Alors, oui, pour moi. Je vais développer un petit peu quand même.
Oui, merci.
En fait, je me suis mis à l'écriture plus récemment, donc je l'aborde de la même façon, c'est-à-dire je crée un univers, je crée des personnages, et ensuite j'enrichis ça, et on voit ce qu'on peut faire comme histoire dedans.
Mais tu te rends compte que tu dis toi-même, je me suis mis à l'écriture plus récemment, alors que...
Non, mais en fait, j'ai écrit depuis toujours quelque part, hein, voilà. Bien que ce ne soit pas, c'est pas les mêmes mécaniques d'écriture. Pour te donner un exemple un peu plus concret qui fait vraiment le pont, quand j'ai créé le jeu Necropolis, donc avec l'aide notamment de Charlotte, de Benoît Atinost et Sandy Julien, là c'était vraiment une plateforme, ce que j'appellerais plus proche du transmédia storytelling, un petit hobby auquel je m'intéresse en ce moment. Dans la mesure où on a un univers qui s'est développé et j'ai la chance de connaître des gens dans le milieu littéraire que j'ai invités pour une anthologie et je leur ai donné entre guillemets le monde, ils ont développé leur propre histoire dedans. Donc là c'était vraiment le pont entre les deux mondes, écriture et jeu de rôle, si on doit les différencier. Et sinon, à part ça, on a eu à un moment donné, mais c'est passé des contacts pour développer le jeu en web-série. Finalement, ça s'est pas fait, mais il y a d'autres ouvertures qui se font petit à petit. Donc, en l'occurrence, ça tombe sur Necropolis parce que c'est un jeu qui est assez abordable. C'est un jeu de flic avec des pouvoirs. Donc, ça connote pas mal les séries télé et c'est pour ça que je pense qu'il est plus accessible. Mais sinon, pour revenir à la question qui était est-ce qu'on aborde de la même façon ou pas, quand j'écris un scénario, c'est beaucoup plus découpé. On est beaucoup plus dans des principes de acte 1, scène 1, acte 1, scène 2, et ainsi de suite. Et on déroule comme ça. Quand j'écris un roman, j'ai plus un... On va dire, j'ai mes schématiques de 3 parties. Mais un plan un peu plus détaillé et plus linéaire. Quand on fait du jeu de rôle, on pose des éléments et on doit envisager ce que les joueurs peuvent éventuellement en faire. Et prévoir éventuellement, ou pas, mais en tout cas, ça s'écrit différemment.
Toi, tu considères que du coup, en tant que d'abord romancière, tu es plus maître de tes personnages ?
Ah ouais, mais en fait, oui, ça relance ce que dit Fabien, c'est que j'ai l'impression que quand tu écris, alors... Un scénario de jeu de rôle, effectivement, tu écris avec. En fait, c'est déjà, tu prépares déjà un travail qui n'est pas un travail, mais en tout cas une aventure collective. Et quand il s'agit d'un roman, bah, t'es seul face à ton ordinateur avec tes personnages. Moi, j'ai tendance à maîtriser relativement mes personnages. Je leur laisse généralement une petite ouverture. J'aime bien me laisser surprendre. Mais c'était quoi la question ? C'était si j'étais maître de mes personnages ou pas ? Ah oui, un petit peu quand même. Mais ne serait-ce que parce que ils vont dans une direction donnée. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir dans l'évolution même de l'histoire, bah, quel détour ils vont faire pour arriver au but que j'ai déterminé pour eux.
Est-ce que, quand je vous entends en parler, est-ce que la différence entre écrire pour le jeu de rôle et écrire un roman ou quelque chose, c'est pas justement le principe de la collaboration? Est-ce que le jeu de rôle n'est pas automatiquement quelque chose qui envisage le collaboratif dès le départ?
Au niveau jeu de rôle, si c'est évident. Mmh. Là, alors après, il y a des jeux qui s'écrivent un peu plus, entre guillemets, tout seul, mais de toute façon, même quand on écrit un jeu tout seul, on l'amène forcément à un moment donné à une table, au moins pour le playtester. Mmh. Et à partir de là, il y a des échanges et ça enrichit forcément. Et c'est là qu'on retrouve le côté un peu plus collectif. Mmh.
Et est-ce que justement, toi qui as déjà écrit à plusieurs mains, est-ce qu'il y a déjà été directrice d'anthologie, est-ce que justement cette façon d'appréhender la littérature, c'est pas une façon de l'appréhender par l'angle collaboratif du jeu?
C'est ce qui est génial, c'est justement écrire, voilà, par exemple Necropolis, dans un univers qui n'est pas le mien, avec d'autres personnes, en trouvant des choses qui se répondent. C'est vrai que par exemple avec Sandy, Julien, j'avais déjà l'expérience sur COPS. Et ce qui est très intéressant, c'est de se renvoyer la balle sur des petites choses, entre guillemets, non pas se piquer des idées, parce qu'on se demande toujours très très poliment est-ce que ça t'embête si j'utilise tel personnage ou tel personnage, mais du coup ça crée des liens à l'intérieur des liens, et de toute façon les expériences d'écriture collaborative sont toujours très très enrichissantes. D'un autre point de vue, on est en train de travailler sur un projet Ouroboros avec Nicolas Fructus, Raphaël Damien Castagnac et Mathieu Gabory. Et ce qui est génial, c'est justement ce côté foisonnement et création et émulation aussi.
Du coup, vous ressemblez à un groupe de rock.
Oui, ou drôliste.
C'est presque pareil. Et justement, question de si vous deviez, si un jour le choix devait se faire entre plutôt littérature ou plutôt de jeu de rôle, est-ce que vous pourriez faire ce choix, ou et qu'est-ce que vous choisiriez? Est-ce que c'est comme moyen d'expression, vous en tant que tous les deux créateurs d'univers?
Ben, je vais être hyper prosaïque, mais je lis pas du jeu de rôle. Oh, voilà.
Ok.
Moi, comme c'est une conférence, je vais essayer de faire une citation, un truc pas trop bête. En fait, je vais plutôt rappeler ce que dit John Wick, qui est un créateur bien connu dans le jeu, qui dit qu'à la base de l'humanité, il y avait l'être humain et qu'il avait besoin d'histoire et qu'il y avait le chaman pour ça. En l'occurrence, je pense que c'est des façons différentes de raconter des histoires. Tu parles de littérature, tu parles de jeux de rôle. Charlotte a aussi une casquette de scénariste BD. Je travaille aussi en BD. Je suis aussi illustrateur. À chaque fois, on raconte une histoire et à chaque fois, c'est d'une manière différente. Mais là, en l'occurrence, je ne pourrais pas choisir. C'est vraiment tellement différent que je ne pourrais pas choisir.
Donc, il y a une transversalité dans la création qui fait que tout est possible à partir du moment où on a envie de créer. Mmh. Ok, je fais des questions tellement compliquées qu'il y a juste à répondre oui, non.
Tout est possible à condition d'avoir quand même le talent, le temps et envie de travailler aussi. Parce que, par exemple, la sculpture, là, j'aimerais bien dans l'absolu, mais voilà, j'ai deux mains gauches. Donc même en travaillant énormément, je pense pas que ce soit tout à fait possible.
Mais il y a quand même le moment où il y a des... Je suppose des auteurs de jeux de rôle qui ne passent jamais à la phase du roman. Est-ce que parce que c'est une difficulté différente, parce que c'est une...
En fait, il y a déjà des joueurs qui ne passent pas le cap d'auteur de jeux de rôle, dans la mesure où la première difficulté quand on écrit, je parle sous le contrôle de plein de gens qui écrivent dans la salle et tout ça, c'est déjà de finir. Finir un projet, que ce soit une écriture de jeu de rôle ou de roman, il y en a très peu qui le font. Et ensuite, une fois que c'est fini, il faut souvent retravailler, faire lire à d'autres, prendre son ego souvent, au début, et se le mettre dans la poche, voire l'enterrer, pour avoir les critiques qui progressaient. Et une fois qu'on a passé ce cap-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les auteurs de jeux de rôle ne passent pas le cap de la littérature, dans la mesure où ce sont des choses vraiment différentes. Mais il y a des ponts, surtout là en termes d'imaginaire, qui se font. Et souvent, on retrouve des auteurs de jeux de rôle qui font leurs armes dans le jeu de rôle pour ensuite faire du roman. Et peu l'inverse, ça je te l'accorde. Mais... L'un ne dépend pas de l'autre, et l'un, pour moi en tout cas, n'est pas au-dessus de l'autre. Mmh.
Est-ce que vous, vous êtes en mesure, de, quand vous lisez d'autres auteurs, de reconnaître un rôliste dans la façon d'écrire ? C'est ce qu'on reproche parfois à certains...
C'est pas forcément que la façon... Enfin, je sais pas, c'est...
Le mode narratif.
Oui, peut-être. Certains, oui, je dirais que certains, oui, mais c'est pas... C'est pas grave. Enfin, je veux dire qu'on est tous... Enfin, je pense que dans la tête, j'en vois un au moins de rôliste. Et voilà, et c'est pas une tare d'être rôliste et auteur, mais c'est vrai.
Mais arrête, on peut pas dire comme ça.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que.
J'espère vous soigner, mais je vois que non.
Il y a énormément, effectivement, de critiques qui sont faites envers les auteurs qui sont rôlistes et qui racontent leur partie. Je pense qu'on le fait une fois. Pour un premier roman qui est ou non publié, après je pense qu'il y a quand même une grosse responsabilité d'éditeur, c'est-à-dire que si l'éditeur ne fait pas minimum de boulot qui est de dire à son auteur « écoute, t'es mignon, mais là tu me racontes une partie de jeu de rôle, donc il va falloir changer certaines choses, modifier, faire quelque chose, retravailler quelque chose », je veux dire que on va dire que c'est un tort partagé, après on fait ses armes, après on travaille, on a envie d'écrire des choses, on a des choses à dire, ou pas. Voilà. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on est auteur, rôliste, on se soigne pas, on aime ça. Et voilà. Donc c'était juste pour dire que c'est vrai que c'est toujours un peu un petit peu agaçant d'avoir ce côté. Excusez-moi, je suis romancier, j'ai été rôliste, mais je le suis plus. Non, en fait, on lit. Voilà.
Espèce de snobisme sur le.
Voilà. Et je veux dire qu'il y a quand même des personnes aussi, comme je veux dire Jean-Philippe Jarowski, il fait du jeu de rôle, Fabien Clavel fait du jeu de rôle, donc voilà quoi.
Mathieu Gaboury,
David Camus.
Stéphane Marsan en a fait, il y a plein de gens du milieu.
On mettra la liste sur le.
Et on les dénoncera. On les dénoncera à Nécropolis.
Oui. Et puis je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que le jeu de rôle aide énormément à se mettre à la place de l'autre. Et quand on écrit, en tout cas moi quand j'écris, j'ai besoin de me mettre à la place de mes personnages. Et c'est pas forcément évident, y compris de pourriture sordide. Et incarner une pourriture sordide dans une partie de jeu de rôle, soit parce qu'on a décidé de faire une expérience, soit parce qu'on met une manette de jeu, mais c'est génial. Parce qu'on est vraiment dans la peau d'eux. Donc après, en écrivant, moi j'arrive bien plus facilement à devenir crédible. Mmh.
Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ce processus qui doit être pratiqué par d'autres auteurs, mais dont j'ai entendu parler moi par Mercedes Laquais, qui est de proposer de travailler en collaboration. Il y a longtemps qu'elle travaille en collaboration avec d'autres auteurs pour continuer à écrire dans son univers, mais elle disait récemment en conférence que elle travaillait en document partagé avec d'autres auteurs et qu'elle distribuait à chacun des auteurs un personnage et que du coup la collaboration et l'avancée du roman se faisait de cette façon-là. Est-ce que ça vous semble pas trop décousu ? Est-ce que c'est pas d'une certaine façon écrire un roman avec ses rôlistes, quoi ? C'est comme si elle avait une bande de rôlistes sous la main et qu'elle leur disait « Ok, on écrit tous ensemble le roman ». Est-ce que ça te semblerait possible ?
Je n'appelle pas ça des nègres, en fait.
Non, elle les crédite.
En termes de roman, non, je ne pourrais pas faire ça. Je peux partager quelque chose qui est fini, je peux m'enrichir de parties de jeux de rôle, je peux, voilà, mais en roman, non. En jeu de rôle, ça fait partie de mes projets, notamment, parce que en ce moment, c'est un peu la mode de lancer un jeu de rôle et de faire du crowdfunding. Tout le monde trouve ça génial, parce que notamment, il y a eu quelques beaux succès, et tant mieux pour eux. Il y a beaucoup de sous, en fait, du coup, qui miroitent. Certains projets, je sais pas tous, donnent, selon les paliers de crowdfunding, du matériel en plus qui est un fichier PDF avec une aide de jeu qui va être, tu l'as cité aussi dans le livre de Reich. Moi, je trouve que c'est un peu limite et j'aurais plutôt envie de partager un univers, de donner des personnages à des personnes, des joueurs qui sont intéressés, et de leur donner un cadre, leur dire voilà, entre guillemets, c'est votre personnage, je suis en train d'écrire l'univers, dans cet univers, comment vous voyez ce personnage, et inclure ça sans pour autant leur dire il faut payer pour ça. Mmh. Et je le vois plus comme ça parce que en tout cas pour moi ça correspond plus à des valeurs de jeu de rôle de partage.
Mmh. Okay. Donc en fait c'est très Mercedes Laquais.
Mais je suis Mercedes.
Ok.
Loup zombies.
Ok. je viens de faire un coming out. Super. Alors, en fait, moi, j'aime bien cette manière de travailler pour les Américains. C'est ce que faisait également Marion Simon Bradley avec Ténébreuse. Et effectivement, c'est une manière de travailler qui est très collaborative. Je pense qu'à partir du moment où on fait ça avec des personnes avec lesquelles on s'entend, tout se passe très très bien. Mais moi, c'est quelque chose qui me plairait assez, en fait, d'avoir vraiment univers. Mais non, pas d'avoir. D'avoir un univers, d'avoir effectivement de travailler dans un univers qui n'est pas le mien, de faire évoluer un personnage dedans avec ou sans cadre, parce que je suppose que de toute manière, dans ces cas-là, il y a quand même une trame, de savoir comment justement on peut contourner la trame. Ça, c'est mes petits problèmes avec l'autorité. Mais sinon, je trouve que c'est absolument génial comme manière de travailler.
Mais tu te vois pas faire écrire un personnage de méchant dans ton roman par quelqu'un que tu détestes, tu vois, ce serait assez
personne.
Logique. Non mais bon, alors Charlotte est parfaite, elle aime le monde entier, donc
mais moi
mais je trouverais assez rigolo de se dire que tu demandes à quelqu'un dont tu apprécies peut-être l'écriture mais dont la personnalité ne te convient pas d'écrire un personnage de méchant.
Non, parce que justement c'est je pense que tu ne peux travailler dans ce genre de conditions qu'avec des personnes avec lesquelles tu t'entends.
D'accord.
Sinon, sinon tu as des pétages d'ego, des explosions de plein vol, des insultes sur Facebook. Non, c'est pas possible.
Et du drame.
Et du drame.
Est-ce que justement, voilà, y a un jeu dont vous vous souvenez qui est pas un jeu de rôle, mais qui est un jeu tout bête qui s'appelle le Uno, et très régulièrement disent le Uno, qui est une espèce de 8 américain amélioré, peu importe. L'idée c'est que c'est un jeu où les gens disent qu'il faut pas jouer à ça avec ses amis parce que tu te fâches.
Il y a un truc. Il n'y a pas que celui-ci.
Mais et alors, est-ce que vous faites partie de ces rôlistes tellement investis de leur personnage qu'ils ont du mal à détacher le. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous retrouvez en face à face en tant que personnage de jeu de rôle quand vous jouez ensemble et qu'il y a est-ce qu'il y a des clashs de personnages qui ne correspondent pas à vos clashs de personnalité, puisqu'il n'y a pas de clash entre vous? Nous sommes au monde des bisounours, rappelons-le.
Alors, il y a eu quelques trucs dont je me souviens, mais c'était pas avec toi.
Mais il était temps, on arrive bientôt à la fin, il était temps.
Quand on s'est rencontrés, on était dans un groupe de...
Ça va, quoi. Je pensais pas que t'étais comme ça.
Je suis comme ça. Je suis comme ça. Fabien, donc, commence à maîtriser, donc, avec des personnes qui étaient sympas, mais pas toujours très claires. Donc, je dis des choses donc, avec un type qui commençait vraiment à nous casser les couilles. Disons les choses franchement. Et qu'il y avait des problèmes de. Ben voilà, alors après, on a le. Je suis la Sophie dans un groupe de rôlistes. Il y a des gens qui ont des problèmes de. Je sais pas.
De relation à la féminité.
Voilà. Et qui rentrent dans des histoires de concurrence. Fabrien maîtrise une partie de Secret de la 7ème mai où on joue des héros de KPDP. Donc normalement, tout va bien. Et là, le type en question commence à péter un câble et limite à agresser Fabien. Et on l'a quand même bien foutu dehors, j'étais quand même à deux doigts de lui exploser la tête. Voilà.
Une personne zen. Et
je ne suis pas toujours zen. Voilà. Mais sinon, non, on peut continuer des parties, des discussions, ce genre de choses après une partie de jeu de rôle, mais ce genre de trucs, c'est rarement arrivé.
Et quand tu connais super bien l'autre, comment tu penses qu'il y a des moments où tu réussis à le surprendre avec ton personnage ?
Ah, mais ça, j'adore justement ces petits côtés un peu traîtres, un peu surprise, un peu même ces discussions qu'on peut avoir très animées quand tu es dans la peau d'un personnage et que tu as quelqu'un, que ce soit Charlotte ou que ce soit quelqu'un d'autre. En général, tu joues avec des gens que tu apprécies. Donc, se prendre le bec avec quelqu'un par l'intermédiaire du personnage, parce que même si c'est vraiment pas tes valeurs, mais le personnage fonctionne comme ça, donc tu es obligé d'agir dans ce sens-là, tu crées quelque chose, tu crées une émotion, et je pense que créer l'émotion en jeu de rôle, c'est important, autant que dans l'écriture. Et à partir de là, je joue pas que là-dessus, il y a des parties très zen, et... je tue pas forcément tout le monde quand je maîtrise les parties, ainsi de suite, hein. Je cherche pas le drame absolument. Mais... Oui, ça m'arrive de me prendre la tête par intermédiaire de personnage avec un autre personnage.
Ah mais oui, je sais à quoi je fais illusion. En fait, on joue à Fireborn. Dans Fireborn, on incarne des dragons, des humains, dragons. Enfin, bref, on est possédé par un dragon. Enfin, on vit avec un dragon. Il se trouve que j'incarne une tueuse à gages qui a une éthique et que un des personnages dans le joueur qu'il incarne est un type hyper pacifiste. Donc, on a des discussions sans fin sur faut-il ou non tuer et est-ce que quand tu acceptes un contrat pour buter quelqu'un, même si le type c'est
Hitler.
Par exemple, Hitler, est-ce que quelque part tu ne commets pas un acte criminel? Enfin, ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a
des grandes questions éthiques et morales, c'était pas mal cette discussion.
Voilà. Mais, non, sinon, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est de jouer sur les émotions.
Mais justement, est-ce que le. Est-ce
que tu cherches le scoop?
Non, je suis.
Tu es à gage.
Le public s'en va et il nous fait savoir. est-ce que justement le jeu de rôle, c'est pas par rapport au roman une façon d'aborder des problématiques tuer, ne pas tuer, est-ce que les méchants méritent de mourir, des problématiques auxquelles on se retrouve confronté seul quand on lit un roman. Est-ce que tout d'un coup jouer ensemble, c'est pas réfléchir le monde ensemble?
Ah si, complètement, si si.
Faut que j'arrête de poser des questions, il y a la réponse dedans.
Non, vas-y, continue, vas-y.
Non, c'était juste un bout de phrase, en fait.
D'accord, bah moi aussi.
Donc
oui, non, de toute façon, on n'arrête pas de le dire, hein, le jeu de rôle, c'est collectif, limite collégial. On partage forcément des idées. On construit un monde ensemble et de toute façon, pour moi, le jeu de rôle, c'est on a des joueurs, hein, il y a un meneur de jeu, mais tout le monde est au même niveau et on fait évoluer l'univers ensemble. Il n'y en a pas un qui place l'univers et les autres qui suivent. C'est vraiment une évolution collective et on avance ensemble et on construit l'univers ensemble. Sinon, ça serait très intéressant.
Et on a tendance aussi à jouer ou maîtriser sur des thématiques qui nous intéressent. Généralement, moi, c'est le monstre et les frontières de l'humain. Donc, ça ne change pas beaucoup des romans, finalement.
Vous maîtrisez tous les deux?
Oui.
Je suis obligée de faire une réponse longue.
Non. Et comment est-ce que vous envisagez la possibilité d'écrire tous les deux quelque chose en commun? Est-ce que c'est une possibilité que vous envisagez ou pas?
Mais c'est un projet qu'on a depuis des années, en fait. D'écrire et d'essayer, enfin, on a plein de projets ensemble de cet ordre-là. Moi, j'aimerais bien qu'on écrive un roman à deux. Je ne sais pas si je te l'avais demandé, mais...
Quelle émotion!
Est-ce qu'on peut lancer la musique sur cette demande?
Voilà, on a déjà écrit du jeu de rôle à deux, donc...
On a fait des romans et albums jeunesse à deux. Ça, c'était bien, sauf que là, j'étais sous ma casquette illustrateur, et ça, c'est... Je pense que ça revient à peu près au même dans la mesure où, quand on a fait cet album et ce roman, ça s'est vraiment construit en discussion, en fait. Un peu, peut-être moins sur le roman, mais sur l'album, Charlotte écrivait un texte, je faisais une illustration, elle répondait à cette illustration par un texte, et ainsi de suite. Mmh. Et donc, de toute façon, on arrive à...
Donc, on peut en envisager un chapitre...
Oui, un truc de 300, 406.
Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas la seule chose qui n'est pas interchangeable entre vous, l'illustration, puisque Charlotte nous a dit qu'elle avait deux mains gauches.
Ouais, en fait, je dessine et je me donne pas la peine de faire plus. Mais en fait, j'ai la photo aussi que j'adore et j'ai pas le temps. Et puis comme tu le sais, je suis quand même de plus en plus branchée équitation, équithérapie et tout ça, donc je peux. Les journées ne font pas 48 heures.
Ok. Donc, peu de chance qu'un jour, Charlotte illustre un roman de Fabien.
Il y a peu de chance, mais si vous voulez des dessins de Charlotte, il faut aller plutôt... faut demander des dédicaces. Charlotte fait des dessins quand elle fait des dédicaces, notamment sur Le Dernier Ours. Sur les romans... des fois, dans ses romans, il y a des chevaux. Et elle dessine des chevaux.
Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Charlotte et Fabien?
Alors, vous n'êtes pas obligé de poser une question à Charlotte et Fabien. Vous pouvez faire Charlotte ou Fabien.
Allez, soyons. Non, on va commencer par le monsieur, parce que David étant directeur artistique du festival, il va d'abord laisser parler son public. Allez-y. On vous écoute? Ah, il n'avait pas de question, pardon. Alors, monsieur, derrière, on vous écoute.
Ça vous existe, c'est pas de réécriture parfois.
Alors.
Pour correspondre aux normes des correcteurs, etc., comme pour un texte.
Alors en fait, oui. Alors déjà, pour recaser un peu le sujet, Gallimard et François Zir ont lâché le jeu de rôle depuis très longtemps. Ils se sont rendus compte que ça n'amenait pas énormément d'argent, je pense. C'était un peu comme ça. J'avance peut-être, hein, mais bon. À l'heure actuelle. Le milieu du jeu de rôle est un petit milieu, les tirages ne sont pas énormes, et on n'a pas de... Du coup, comme les budgets sont petits, trouver des gens, des professionnels qui puissent payer décemment, c'est difficile. Donc déjà, ça répond déjà à une partie de la question. Cela dit, il y a plusieurs types d'éditeurs. Dans le milieu, il y a les éditeurs qui prennent les textes comme ça,
oui.
Qui vont balancer éventuellement un correcteur de français, on va dire, et puis ils vont publier. Et puis là, en l'occurrence, plus chez les 12 singes, dans la collection où est sorti notamment Nécropolis.
C'est intégral.
En fait, c'est pas du calibrage vraiment. Sur les deux livrets, on doit faire 600 000 signes. Et c'est plutôt découpé par gros tronçons. Et on a à peu près un nombre de signes par page, mais c'est très, très fluctuant. On a juste la masse de signes à donner. On doit répondre à ça. Et évidemment, on retravaille les textes, on corrige. Enfin, quand je parle de cet éditeur-là. Et voilà, je sais pas si c'est les mêmes critères que chez Gallimard ou...
David.
Oui, j'aimerais savoir pourquoi vous posez des questions. parce que je suis amené à trouver le détail du métier des correcteurs ou imprimeurs, lors même de leurs examens de sélection, dans le cadre des métiers de l'édition.
Si je peux me permettre, le métier de correcteur et d'imprimeur, sauf si je me trompe, c'est totalement dissocié. En l'occurrence, je pense que tout bon éditeur, de toute façon, a des correcteurs. Et j'espère. En termes de typo, je pense que ça se fait plutôt en interne. Après, le retravail, c'est à peu près chez tous les éditeurs un peu sérieux.
On n'est pas obligé d'avoir son moine personnel pour écrire la typographie qu'on souhaite, tout ça. Non,
si je peux me permettre, la problématique que décrit Fabien, plutôt le type de situation que décrit Fabien, n'est pas propre aux univers de rôle. Oui. Elle est propre à toute petite maison qui manque de moyens, et donc aussi à certains petits éditeurs de littérature de poésie ou d'art général ou autre, qui n'ont pas forcément avoir l'argent pour rémunérer un correcteur. Je dirais que les textes de rôle n'ont pas vocation à être moins bien écrits ou à être fait de plus de fautes que les textes de profession.
Et maintenant j'ai le micro. J'ai une question pour Anne. Vous avez parlé du fait de laisser une sorte de marge de manœuvre au personnage pour qu'il vous surprenne, hein, surprendre le lecteur, c'est très bien. Et comment est-ce qu'on fait pour se surprendre soi-même? Comment est-ce qu'on jette un dé parmi...
Non, en fait, c'est des questions logiques. C'est-à-dire que quand je... quand j'écris le plan d'un roman, je sais à peu près, en gros, où vont les personnages. J'ai des personnages principaux, des personnages secondaires, et en fait, dans l'écriture, il arrive que, par exemple, un personnage secondaire se mette à prendre bizarrement beaucoup de place. C'est ce qui m'est arrivé sur mes deux trilogies de fantasy. Avec un personnage qui était au départ un inquisiteur qui était là un peu pour meubler les trous, on va dire. C'est pas très sympa, mais enfin, il était là juste pour ça, et puis qui finalement est devenu au fil de la trilogie un des personnages principaux parce que sa psychologie était intéressante, parce que j'ai eu envie de le creuser. Donc, ça c'était ça. Il y a eu dans l'archipel de Niminé, pareil, le premier roman. Enfin, le premier tome, un personnage qui était là, donc qui était la petite copine de l'héroïne de passage. Et en fait, il se trouve que la petite copine de l'héroïne de passage, c'était, en la travaillant, je me suis rendu compte que c'était le personnage le plus humain de ce roman et qu'il était essentiel. Donc c'est dans ce sens-là, par exemple, que je vais pouvoir me laisser surprendre. Et l'autre caractéristique, je dirais, de mes processus d'écriture, c'est que plus ça va, plus le temps passe, moins mes plans sont précis. J'ai une direction donnée. Là je suis sur une réécriture de pièces de théâtre contemporaine, donc je connais la fin puisque je connais l'histoire, mais je suis en train de l'écrire sous forme d'enquête policière, et là à l'heure actuelle j'ai toujours pas décidé qui était coupable, parce qu'il y a plein de possibilités. On va dire que l'assassiné est tellement odieux que il y a plusieurs personnes qui se sont, c'est tout à fait logique que telle ou telle personne l'ait tué, et je me laisse jusqu'à la fin pour le découvrir, et après je reprendrai le roman en essayant d'ajuster des choses si besoin.
Est-ce que vous n'avez pas envie, là pour le coup, question à Charlotte, est-ce que de temps en temps t'as pas envie que Fabien prenne tous les personnages de la peau des rêves et tout l'univers de la peau des rêves et on fasse un jeu de rôle? Est-ce que ça...
Ah non, mais non.
Eh bien non.
Alors, d'abord, il y a un premier truc, c'est que c'est du post-apo. Fabien n'aime pas le post-apo.
Okay.
Ensuite, tu as lu La peau des rêves. Ils sont quand même pas hyper plaisants non plus. Alors, éventuellement, prendre l'univers...
Ils sont en post-apo, ça se passe pas super bien pour
eux. Non, mais voilà, pour prendre l'univers de La peau des rêves et le transformer en jeu de rôle, je pense que c'est possible parce que... parce qu'il y a des choses à faire, parce que c'est marrant d'incarner des hommes-oiseaux, des mutants, ce genre de choses. Mais en soi, mes bouquins, une fois qu'ils sont écrits, ne m'appartiennent plus. Donc si des gens ont envie d'en faire des univers de jeux de rôle, des bandes dessinées, il n'y avait aucun souci. Mais c'est juste que moi, je suis passée à autre chose, en général.
Mais c'était la suite de ma question, c'est est-ce que... on sait qu'il y a énormément de jeunes femmes qui lisent énormément de littérature young adulte, et qui écrivent énormément de fanfiction. Est-ce que c'est pas un moyen, est-ce que détourner la fanfiction vers le jeu de rôle et proposer dans des univers à succès, proposer dans un univers Hunger Games, je suis étonnée qu'ils aient pas encore pensé en transversalité, un jeu de rôle où tu peux incarner des personnages d'un roman à succès. Enfin, tu vois, c'est ça, l'idée c'est est-ce que adapter du roman à succès en jeu de rôle, c'est pas des choses qui vous semblent intéressantes. Est-ce que ça vous intéresse déjà, ou est-ce que ça pourrait pas être un moyen de diffuser un peu plus le jeu de rôle dans des espaces ou dans des groupes qui y sont pas forcément habitués?
Alors je dirais que ça existe déjà. Alors
je t'écoute.
Déjà, pour parler, pour être un peu chauvin, je dirais qu'on a Mathieu Gabory quand même.
Mais je parle d'univers un tout petit peu moins, je vais mettre des gros guillemets, mais un tout petit moins élitiste et un tout petit peu moins centré fantasy. Je parlais de young adulte et c'est pour ça que je parlais de la peau des rêves, parce que ça me paraît.
Il y a pas un jeu de rôle Twilight?
Mon Dieu, arrêtez tout, brûlez le monde. Il y a un jeu de rôle Twilight.
En fait, quand on regarde notamment, mais alors il y a jeu de rôle parce que. Il suffit d'aller sur certains sites où il y a des créateurs, avec des guillemets aussi, qui font des jeux de rôle diffusés en PDF, et en fait tu mets le nom d'un roman ou d'un film et tu mets RPG à la fin, et souvent il y a matière.
D'accord.
Mais je sais pas si c'est porteur pour le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle a son propre public, et que je sais pas si vraiment le jeu de rôle a besoin de s'étendre, parce que Si on prend une référence beaucoup plus contemporaine, si on pense à George Martin, qui ne fait pas de jeu de rôle, hein, qui a un petit peu de succès, qui a fait du coup une petite série télé, et du coup ils ont fait aussi un jeu de rôle qui va avec, mais en fait je ne suis pas sûr que ça amène beaucoup de gens sur le jeu de rôle. Peut-être que ça marche plus sur des plateaux.
Mais en fait, je suis en train de penser à quelque chose aussi, c'est que par exemple Harry Potter, donc quand on va sur, enfin J.K. Rowling, elle a développé, puis je suppose que les fans ont développé Pottermore, où on peut effectivement incarner un élève de Poudlard. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on se retrouve projeté dans l'univers. Ce qui est insupportable, c'est qu'on se retrouve toujours avec la cinquième roue du carrosse. Quand on fait une partie de jeu de rôle, quand on fait une campagne de jeu de rôle, on est là pour être au centre de l'histoire et pour développer l'histoire. On n'est pas là pour être le copain du héros. Et je pense que c'est un petit peu le souci avec ces univers. En revanche, je trouve que l'idée de développer des forums de fanfiction, ça c'est génial, parce que effectivement ça peut amener plein de choses, y compris des créations communes et tout ça.
Une autre question, super.
Une autre question dans la salle.
Oula, je m'assois.
C'est trop loin.
Donc juste en remarque complémentaire, c'était aussi un peu dommage de plier un univers dans tous les sens pour le faire entrer dans un système de jeu de rôle et appliquer un système, parce que ça veut dire par essence que le système de jeu dans lequel l'univers n'a pas été créé ensemble, qu'on avait un univers préexistant et qu'il faut y calquer un gameplay. C'était un peu dommage, et je trouve que généralement ça donne des choses où on peut détacher l'un de l'autre, c'est un peu dommage.
En fait, comme David n'est pas d'accord, je vais surtout. En fait, il y a deux histoires. C'est-à-dire qu'il y a le fait, en effet, de plier un univers à un système ou l'inverse. N'est pas. En effet, quand je crée un jeu de rôle, je pense le système en même temps. Je vais t'aider. Ah bon, d'accord. Et en fait, les choses auxquelles j'accroche le moins, c'est quand on a un système justement tellement générique que ça ne colle pas à l'univers, et du coup, on perd l'âme de l'univers parce que c'est bête à dire, mais la mécanique de jeu et le GLD sont aussi importants que l'histoire, donc ça doit aller de pair. Et du coup, je fais ce que personne, tout le monde est d'accord, apparemment. Mais en effet, je suis pas spécialiste en l'occurrence sur le jeu
sur les systèmes.
Game of Thrones. Si, sur le système. Enfin, je suis en fait sur le système, mais j'en ai fait quelques-uns maintenant. Mais sur Game of Thrones, je sais pas, de mémoire, je crois qu'en tout cas, la première version qu'ils ont faite du jeu de rôle, c'était assez générique. Si j'avais dû mettre un système là-dessus, j'aurais été chercher peut-être plutôt du côté de House of Blood de John Wick, qui est basé sur des histoires d'émotion, de drame et de coups de pourri en politique, et ça serait peut-être mieux collé.
Et puis comme John Wick a développé un système sans univers, ça serait bien. C'est pas du tout un reproche.
John Wick, si tu nous écoutes.
Donc c'est possible de développer un système sans univers.
C'est pour John Wick. Non, en fait, pour revenir aux House of Blood, John Wick a créé un système de jeu qui est génial, qui est très participatif, avec un univers qui est vaguement posé.
C'est John Wick.
Donc, en gros, on sait qu'on incarne, je ne sais plus comment, des sortes d'aristocrates décadents dans un monde. Et alors, le problème, c'est le monde qui donc n'existe pas.
Voilà.
On cherche toujours des. Il y a aucune. Enfin, en gros, il a dit, écoutez, c'est aux joueurs et à vous de décrire l'univers. Sauf que. C'est très sympa.
Paye ton poil dans la main quand même, tu vois.
Mais voilà, c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'embryon du commencement de quelque chose.
C'est, alors, à sa décharge quand même. Je ne connais pas John Wick personnellement. Je n'ai pas d'action chez John Wick. Voilà. Juste pour dire que la méthode américaine est un peu différente dans le fait que John Wick vit, lui, complètement du jeu de rôle, ce qui en France est impossible, mais presque. John Wick utilise le crowdfunding, on va dire, un peu plus à l'américaine. Il balance X jeux par an. Et les jeux qui crowdfundent correctement, je ne sais pas si on peut faire du jeu logique.
Oui. Merci David.
Qui rapporte assez de sous. Enfin, voilà, en gros, il développe ces jeux-là. Donc, en développant ces jeux-là, ceux-là seront enrichis probablement d'un univers. Les autres. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, parce que je ne sais pas, je connais pas tous ces jeux, mais peut-être que c'est aussi un gros flemmard du background. Mais sinon, voilà, sinon, il a souvent beaucoup de squelettes de jeux non achevés. Mm-hmm.
Si je peux apporter peut-être juste un complément pour revenir à Game of Thrones,
complètement.
C'est qu'il y a en fait la même problématique sur d'autres plateaux. On sait aussi qu'un jeu de plateau, quelle que soit sa beauté, ou quel que soit l'univers qui est développé, si le système de jeu n'est pas dans l'intelligence de l'univers développé, le jeu il meurt de lui-même. C'est un peu comme une BD qui est très belle graphiquement, mais dont le scénario finit par être usé. C'est les mêmes problématiques. Et pour Game of Thrones, il y a un premier jeu de plateau qui a été développé d'une dizaine d'années, mais auquel j'avais joué d'ailleurs avant même de connaître les livres et tout, je connaissais même pas, et le jeu était démentiel. Et c'est vrai que l'immersion dans l'univers Game of Thrones marchait vraiment. Et c'est un jeu simplement de prise de position de territoire, et tout le monde est étouffé, tout le monde te montre la gueule. Et en fait, c'est exactement
dans le roman.
C'est exactement les livres, sauf qu'en jouant au plateau, il n'y avait aucune connexion avec les livres, tout le monde était tous. Personne n'avait lu les livres, et le système de jeu était juste génial. Et il était en même temps très respectueux de l'univers.
Je suis d'accord, c'est des parties longues, mais.
Ouais.
mais c'est horrible. Bon, je garde un souvenir cauchemardesque. Et j'aime pas Game of Thrones, donc.
Ah mon Dieu, un coming out. Oui, monsieur.
Oui.
Intéressé à quoi, monsieur ? Est-ce qu'ils se sont intéressés à quoi ? Voilà. Alors, est-ce que vous êtes des GNistes ? Des GNistes, oui. Voilà, ils jouent en grandeur nature leur jeu de rôle.
Ne pas confondre avec les reconstitutions historiques, qui marchent aussi.
Alors,
oui.
Les GNistes.
En fait, pour répondre à votre question, la réponse est assez simple, c'est-à-dire que les différentes sectes, différentes écoles du jeu sont assez poreuses.
Les sectes, là, un autre coming out, donc le jeu, c'est des sectes.
Non,
merci Fabien de confirmer.
Un petit bisou à Mireille. Mais en fait, les groupuscules, enfin, c'est très poreux entre le jeu de plateau, le jeu de rôle, en grandeur nature, voire l'improvisation théâtrale. On n'en a pas parlé parce que ce sont aussi des sujets à débat, mais le jeu vidéo aussi, qui est un cousin du jeu de rôle, voire un petit frère. Enfin voilà, c'est des milieux qui sont poreux les uns les autres, et je pense qu'à l'origine, on a surtout des joueurs. Et le gros avantage du jeu de rôle, c'est que, en majorité, les gens sont curieux. Et ils vont être autant joueurs de jeux de plateau, de jeux de rôle, et aussi lecteurs, parce que je reviens sur la première question, comme ça fait une belle boucle.
Magnifique. Enfin, c'est très très bien fait.
En l'occurrence, le jeu de rôle m'a permis de développer la lecture de l'anglais, ce qui n'était pas gagné en 6e, et la lecture en général. Et je pense que c'est en ça aussi que le jeu de rôle est enrichissant, donc c'est qu'il vous pousse aller vers d'autres univers, mais aussi d'autres supports. On parlait aussi de transmédia tout à l'heure. C'est pas pour rien que c'est aussi poreux avec les fans de séries télé et ainsi de suite. Donc le jeu de rôle grandeur nature fait partie des premiers piliers du jeu de rôle, en tout cas en France. Donc en général, les rôlistes s'y sont déjà au moins essayés une fois.
Bien.
C'était un peu long.
Non. Une autre question ? Ou on va se dire allez jouer, rencontrez-vous, lisez, écrivez, faites vivre le jeu et la littérature, c'est ça ?
Oui, on peut finir avec ça. Et buvez du café.
Et buvez des cafés. Non, ça non, plutôt du thé. Hein. Merci à tous les deux et merci à tout le monde.